la jalousie de Dieu. Je ne vais pas trop traîner, parce que le temps court, il est déjà 15. La jalousie de Dieu. On va lire deux textes, s'il vous plaît. Deutéronome, chapitre 6, verset 4, verset 5. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Souvenons-nous que lorsqu'on posa aussi à Jésus cette question, quel est le plus grand des commandements? C'est ce verset que Jésus avait donné. D'accord? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alors, le verset 14 et 15, s'il vous plaît. 14 et 15. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi. Et il t'exterminerait de dessus la terre. Je reprends. Juste le verset 14. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Ah, Dieu est un Dieu jaloux. Ce matin, je veux parler de la jalousie de Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Dieu est jaloux. C'est quand même terrible. Mais pourquoi Dieu est jaloux? En quoi est-il jaloux? On va en parler un peu ce matin. Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme. Déjà, je vais vous poser une question. Je sais qu'ici, il y a des mariés, il y a des fiancés. Est-ce qu'il vous arrive d'être jaloux? Est-ce qu'il arrive à des fiancés, à des mariés, voilà, d'être jaloux? Il paraît même que parfois, il y a des parents qui sont jaloux. Vous voyez? Quand, par exemple, un papa va trop s'occuper de ses enfants, maman se sent délaissée, elle devient même parfois jalouse de l'amour que le papa porte trop sur les enfants. Et elle, en la délaissant. Oui. La jalousie vient souvent un peu pour ça. C'est-à-dire que celui qui était au départ l'objet de tes attentions, l'objet de tes regards, l'objet de ton temps, se sent à un moment donné délaissé. Ton regard se détourne un peu de lui. Et au final, il devient jaloux de l'autre objet ou de l'autre personne qui est devenu l'objet de ton attention. L'objet de ton temps, l'objet de ton amour. Et au final, notre Dieu aussi, c'est un Dieu qui devient jaloux lorsque notre attention, notre regard, notre temps, notre amour se détourne un peu de lui pour se poser sur autre chose. C'est pour cela qu'ici, il disait que tu n'irais pas devant d'autres dieux, tu ne te prosterneras pas devant eux, les dieux qui seront au milieu de toi. Ici, on parle de Dieu, on parle d'idole. Mais aujourd'hui, pour notre réalité, c'est beaucoup de choses. Ça peut être notre travail qui nous prend trop de temps. Ça peut être les activités que nous faisons, même en famille, qui nous prennent trop de temps. Ça peut être aussi parfois simplement venir à l'église. Attention, parce que faire l'œuvre de Dieu, parfois ça nous prend tellement de temps, mais l'intimité personnelle avec Dieu, ce n'est pas la même chose que de venir à l'église, prêcher, peut-être faire du ménage. Non, il y a une relation d'intimité personnelle qu'on doit avoir avec Dieu. Et Dieu est jaloux de ce temps que nous passons avec lui. Dieu est jaloux de ce qu'il nous a mis à part pour que nous lui appartenions. Et lorsque, effectivement, dans nos activités, dans nos œuvres, on n'a pas ce temps que nous donnons à Dieu dans l'intimité que nous passons avec lui, ben Dieu devient jaloux de ce vers quoi ton attention s'est tournée. Ton travail, ta famille, une activité quelconque. Et Dieu devient jaloux de cela. Alors, il n'y a pas que ça. On va voir pourquoi Dieu est jaloux. Tout à l'heure, je parlais des mariés, je parlais des fiancés. Et on va lire un verset. Ésaïe 54. 54, 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car ton Créateur est ton époux. La jalousie de Dieu vient du fait que Dieu nous a mis à part. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Dieu. Et comme tout à l'heure, je parlais des familles, de mari, de femme. J'ai parlé de jalousie. Il arrive à un homme d'être jaloux si un autre homme regarde sa femme ou si sa femme passe trop de temps avec un autre homme. Il va se poser la question de savoir de quoi il parle, qu'est-ce qu'il lui dit. Voilà, il développera une jalousie, posera des questions. Et Dieu, c'est pareil. Dieu développe de la jalousie aussi parce que nous sommes son épouse. Et qui dit époux veut dire que nous lui appartenons. Donc le temps que nous passons ou la place que nous donnons à d'autres choses dans nos vies, Dieu devient jaloux de cela. Parce qu'en tant qu'époux, il veut que tout notre cœur, tous nos pensées, tout notre temps, toute notre attention soit sur lui. C'est pour cela qu'au départ, il dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Parce qu'il est ton époux. Autant que nous sommes dans une relation de mariage, nous aimerons aussi que notre épouse nous aime de tout son cœur, toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Parce que nous lui appartenons et elle nous appartient. Ainsi est la relation que nous avons avec le Seigneur. 2 Corinthiens 11, du verset 1 au verset 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, c'est l'apôtre Paul qui parle, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je reprends ces paroles. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux. Ah, un autre homme de Dieu qui est jaloux. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de qui? D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc l'apôtre Paul aussi a développé une jalousie à l'égard du peuple de Dieu. Mais une jalousie de Dieu, et je dirais même une jalousie pour Dieu. Parce que autant l'apôtre Paul était jaloux, c'est de la même jalousie que l'apôtre Paul parle, et c'est la même jalousie dont Dieu parlait. La jalousie pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il l'a fiancé à un seul époux. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes fiancés à un seul époux. Notre attention, je reprends, notre temps, notre argent, nos enfants, enfin tout ce que nous possédons, à un seul époux. À un seul époux. J'irai encore plus loin, notre corps, à un seul époux. C'est pour cela qu'il est écrit que notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Parce que même notre corps appartient à Dieu, en tant qu'époux. Et donc, ce que nous vivons dans notre quotidien, c'est une pensée que nous devons garder, que nous sommes la promise de quelqu'un. Nous sommes la fiancée de quelqu'un. Et quand on est fiancé, quand on est dans un mariage, on fait attention à ce que nous faisons en fonction de notre époux. Et je dirais aussi, en fonction de notre épouse. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Vous voyez, moi, par exemple, avec mon épouse, lorsqu'elle sort, elle me dit où elle va, elle me dit qui elle rencontre. Quand elle a fini, elle m'appelle, j'ai terminé, je reprends le véhicule, je rentre à la maison. Je sais ce qu'elle fait, je sais où elle est, je sais avec qui elle est. Et inversement, nous ne le faisons pas par contrainte, nous le faisons par amour. Parce qu'il est bon que l'autre sache où tu es. Il ne se pose pas de questions. Il est bon que l'autre sache ce que tu fais. Il ne se pose pas de questions. Et il est aussi bon que ce que je fais soit toujours en fonction de l'autre. Parce que je sais ce qu'il aime. Et je sais ce qu'il n'aime pas. Je sais ce qu'il veut. Et je sais ce qu'il ne veut pas. Mais manière, je sais ce que mon épouse aime. Et je ne ferai pas ce qu'elle n'aime pas. De même manière, elle sait ce que j'aime. Alors, elle s'abstiendrait de faire ce que je n'aime pas. Donc, la relation que nous avons avec Dieu est aussi une relation d'époux et d'épouse. Alors, maintenant, sachez que lorsqu'une femme, je prends l'exemple d'une femme, lorsqu'une femme sort dans la ville et qu'elle se balade, qu'est-ce qui se passe ? Belle femme, bien habillée, attrayante. Quand elle sort dans la ville et qu'elle marche, qu'est-ce qui se passe? Il y a des regards qui se posent sur elle. Il y a des personnes qui parfois l'accostent, qui parfois l'approchent, qui parfois lui parlent, qui lui posent des questions. C'est quoi ton nom? D'où tu viens? Tu vas où? Est-ce que je peux avoir ton WhatsApp? Je peux avoir ton numéro, ton Instagram? Une femme, quand elle marche, quand ta femme quitte la maison, dis-toi que beaucoup de choses peuvent se passer sur la route. Et pareillement pour ton mari, lorsqu'il va au boulot, il y a des collègues, femmes, qui sont aussi là-bas. Beaucoup de choses peuvent se passer. Avec Dieu, c'est pareil. On va lire quelques versets. Matthieu chapitre 25, verset 1. La Bible dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Je m'arrête ici pour ce verset. Je reprends. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, » Tout à l'heure, l'apôtre Paul parlait de vierges, que je représentais à Dieu comme une vierge. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. En fait, si vous voulez, nous sommes l'Église comme une vierge qui va à la rencontre de son époux. Jésus-Christ, notre époux, est venu. Il a fait de nous sa fiancée. Il est reparti et il nous a dit, on pourrait aller les versets, mais comme je cours derrière le temps, il a dit, je vais vous préparer une place, la place de l'épouse. Je vais vous préparer une place. Donc, lorsque Jésus-Christ part nous préparer une place, ben nous, en tant qu'époux, nous lirons aussi les versets tout à l'heure, nous sommes comme en chemin pour aller vers l'époux. La Bible parle que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. En fait, notre voyage que nous faisons, nous allons à la rencontre de notre époux. Nous marchons vers la rencontre de Jésus. Le temps que nous faisons ici, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Donc nous marchons à la rencontre de Christ. Nous sommes ces vierges qui vont à la rencontre de leur époux. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de cette femme qui marche dans la rue. Mais nous sommes comme cette femme qui marche dans la rue. Nous sommes comme cette femme dont il y a des regards qui se posent sur elle. Des regards envieux. Des regards qui veulent d'elle. Des regards qui veulent l'éloigner de son époux qui l'attend. Des regards qui veulent la prendre, la séparer de son époux. Des regards qui veulent l'influencer. Et si on revient sur le passage de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 11, 1 à 2, et maintenant, on va lire le verset 3. On va commencer par le verset 1. Voilà, merci. Or, si vous pourriez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Continuons. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Continuons maintenant. Tout à l'heure, on s'est arrêté là. Maintenant, continuons. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. En fait, Paul explique ici que je vous ai fiancé à un seul époux. Vous êtes en train de marcher. Je veux que vous soyez vierge. Je veux vous présenter à cet époux. Mais, autant le serpent séduisit Ève, aujourd'hui il y a aussi quelqu'un qui vous séduit. Il y a un séducteur qui veut vous éloigner du chemin à la rencontre de votre époux. Autant que le serpent séduisit Ève, et le mot est bien choisi, c'est le mot séduire. Et on séduit bien une femme, comme on peut séduire un homme. Mais on le séduit pourquoi ? Parce qu'il va dans une direction et que tu veux le détourner de cette direction. Alors tu vas le séduire. Il avait un objectif et tu le détournes de cet objectif pour aller dans ton sens à toi, dans ton objectif à toi, l'objectif pour lequel tu es venu à la rencontre de cette personne qui marchait et qui avait son objectif. Et c'est la même manière que nous, nous marchons dans un objectif, on va, comme le dit Vierge de ce chapitre qu'on a vu tout à l'heure, à la rencontre de notre époux. Mais il y a quelqu'un qui nous séduit sur le chemin. Et ce quelqu'un, tout à l'heure je disais que cette femme qui marche et ses regards qui se posent sur elle, et ces personnes qui veulent la séduire, ben c'est tout ce que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien. Aujourd'hui, c'est le serpent. Mais tout à l'heure, je parlais aussi, le travail peut nous séduire. La quête des mariages ou des enfants peuvent nous séduire. Nous écarter de l'objectif. L'apôtre Paul disait que si nous croyons en Dieu et que nous espérons en Dieu seulement pour ce siècle, nous sommes les plus malheureux des hommes. Notre objectif n'est pas la terre. Notre objectif est le ciel. Notre objectif est la rencontre de l'époux. Et si la fiancée sait que mon objectif est de me marier, elle fera tout pour se marier. Elle ne sera pas distraite par tout ce qui se fera autour. Distraite par les copines, distraite par la famille. Non, j'ai mon objectif, je dois me marier. Ce qui est à côté, peu importe, je dois me marier. Et nous sommes l'Église qui allons à la rencontre de notre époux pour nous marier. Parce qu'on parle dans la Bible des préparations des noces de l'agneau. Alors, gardons à l'esprit que ce que nous faisons sur terre, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est la rencontre de l'époux. Que nous ayons ce qui est sur terre ou que nous ne l'ayons pas, peu importe. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire: je sais être dans la monosse. Je sais aussi être dans le fait de n'avoir rien. Je sais être riche, je sais être pauvre. Je sais être en joie, je sais être triste. Parce que son objectif n'était pas ce qu'il avait ici. Son objectif, c'était d'avoir cette couronne, mais qui est dans le mariage avec le Christ. Alors nous, quand nous vivons notre quotidien, pensons que l'objectif n'est pas d'avoir tout ce qui est ici et de se laisser distraire et de se laisser séduire par les choses de ce monde. C'est pourquoi Jésus a prié en disant « Préserve-les de ce monde. Ils ne sont pas de ce monde. Ils viennent à ma rencontre. Ils sont pèlerins, voyageurs, passagers. Ils ont un objectif, venir à ma rencontre. Et pour les aider, je leur ai envoyé l'Esprit de Dieu afin de les accompagner dans le chemin compliqué et difficile qu'ils doivent suivre. C'est pour ça aussi que j'ai dépêché mes anges autour d'eux afin de l'écarter. C'est pour ça aussi que je leur ai donné dans Éphésiens 6 toutes les armes de Dieu, afin qu'ils avancent toujours et qu'ils ne s'arrêtent pas et qu'ils ne soient pas séduits comme Ève fut séduite et rata l'objectif. Nous, nous avons un objectif, la rencontre de l'ami. Alors, si je travaille, gloire à Dieu. Si je ne travaille pas, gloire à Dieu. Si je mange, gloire à Dieu. Si je ne mange pas, gloire à Dieu. Ce n'est pas ça mon objectif. Si j'arrive à me marier, gloire à Dieu. Si je n'y arrive pas, gloire à Dieu. La Bible dit que tout soit pour la gloire de Dieu. Si j'ai mes objectifs en tant qu'homme que je n'arrive pas à réaliser, le Seigneur le sait. Mais gloire à Dieu. Parce qu'il m'attend ailleurs. Ce n'est pas ça l'objectif. Il m'attend ailleurs. Je suis sur la route. Je suis sur le chemin. Que je ne me laisse pas distraire. Que je ne me laisse pas écarter du chemin. Que je ne me laisse pas éloigner du chemin. Et que mon objectif soit toujours devant mes yeux. La rencontre de l'époux. Pour me marier. Avez-vous déjà vu une fiancée qui aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, son futur époux, son fiancé, et qui va se laisser distraire par les choses de la vie? Non. Elle va se focaliser, se concentrer sur les préparatifs de son mariage. Autant Jésus prépare le mariage dans le ciel, autant nous nous préparons pour rencontrer l'époux. Nous devons avoir cette conscience que nous sommes en train de nous préparer à la rencontre de l'époux. Et il faut que l'époux, c'est pourquoi l'apôtre Paul parle de ça ici, je veux vous présenter à Christ comme une vierge. Mais vous vous laissez détourner, et comme le serpent a été séduit, a séduit Ève, vous aussi vous laissez séduire. Au risque de rater l'objectif. Alors, Dieu, Christ, du haut des cieux, voit sa fiancée. Il prépare, il l'attend. Mais il la regarde aussi sur le chemin qu'elle emprunte pour arriver jusqu'à lui. Et parfois, il voit qu'elle s'est écartée. C'est pourquoi Jésus dit, je prie pour vous. Jésus prie pour nous. Parce qu'un fiancé prie que sa fiancée arrive et qu'il puisse se marier. Il n'y a pas un fiancé qui lui dit. Sa fiancée a des problèmes, sa fiancée s'écarte, et puis il va dire, bon, elle a choisi sa vie, bon, je ferai la mienne. Non, il va essayer de trouver des solutions, qu'il puisse se marier. Et Christ, c'est ce qu'il fait pour nous. Chaque jour, il trouve des solutions pour qu'on arrive à l'objectif. Pour qu'on ne s'égare pas. Pour que le mariage se fasse. Un fiancé attentionné. Qui veut que son épouse arrive, qui veut qu'elle soit présente à la cérémonie, et qui veut que la cérémonie se fasse, et qu'il se marie. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. On connaît bien ce passage. Éphésiens 5, 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire. C'est quoi l'objectif de Jésus? Il dit ici, afin de faire paraître ou devant lui. C'est ça l'objectif. Nous devons paraître devant Dieu. Nous devons paraître devant Jésus. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous voyez, vous mariez une jeune femme, elle arrive à vous, elle a des rides. Il y a un problème. Elle avait 18 ans quand je l'ai laissée. Je lui dis, écoute, je vais préparer les fiançailles, tu me rejoins, ok, ok. Elle est partie, elle est encore chez ses parents, elle se prépare, elle prend la route, elle arrive, elle a des rides. Il y a un problème, ma chérie, je ne t'ai pas laissée comme ça. L'objectif, église glorieuse, sans tache, ni rides, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Votre épouse, ou plutôt votre fiancée arrive, tu entends, non, tu sais, ta fiancée, pendant que tu n'étais pas là et qu'elle venait, ah, il y a tel gars qui était avec elle, il y a tel monsieur, il y a telle chose. Tu dis, ah, est-ce que j'ai encore envie de l'épouser? J'entends que pendant que moi, je suis allé préparer le mariage, elle s'est laissée aller à certaines libertés. C'est ça dont on parle, Seigneur, ici. Elle s'est allée à certaines libertés. Et mais elle a quand même eu le courage de venir se présenter devant moi, toute ridée, toute laide, avec le témoignage que j'ai reçu. On est venu me dire, vous savez que Satan, non mais c'est sérieux, Satan nous accuse devant Dieu. Satan nous accuse devant Dieu. Tu veux épouser celle-là? Non, mais regarde ce qu'elle a fait. C'est pas possible. Jésus, tu peux pas l'épouser. Regarde. Ben non, tu peux pas. Toi, tu es saint. Il faut que ta fiancée soit saine. Sans rides, sans défaut, sans tache. Ni rien de semblable. C'est pas normal. Tu es un Dieu juste. Tu peux pas l'épouser. Il faut que la fiancée qui se présente soit aux normes que le fiancé a établies. C'est pareil pour vous, non? Quand vous voulez marier quelqu'un, il faut qu'il ait les normes, il y a les listes. Voilà, il va être comme ça, il doit être comme ça. Hein? Moi, je me souviens, quand je me mariais, j'avais aussi ma liste. Ah, j'avais ma liste, il fallait que ma femme remplisse les critères. Elle aussi, elle avait sa liste. Mais imaginez que les listes ne vont pas, on fait quoi? Jésus a sa liste. La fiancée, quand elle va arriver, il va vérifier la liste. Sans tache, ok. Sans défaut, ok. Sans ride, ok. Glorieuse, alléluia, ok. Allez, on peut se marier. Mais tache, ride, non, c'est plus bon. Tu faisais quoi entre-temps? Qu'est-ce que tu as fait, ma chérie? Alléluia. Amen. Donc Dieu est jaloux, parce qu'il ne veut pas que sa fiancée se donne à un autre. Dieu est jaloux, parce qu'il veut qu'on se préserve pour lui. Dieu est jaloux, parce qu'il veut qu'on arrive au mariage sans tache, sans ride, sans avoir donné notre corps à quelqu'un d'autre. Sans avoir donné notre temps à quelqu'un d'autre. Et pas à lui. Il veut que sa fiancée arrive dans un état acceptable. Et cette fiancée, c'est toi et moi qui sommes attendus aux noces. Pierre 5, 8. S'il vous plaît, merci. on va lire. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le diable rôde. Il ne veut pas de ce mariage. Non, il ne veut pas de ce mariage. C'est l'ennemi de nos âmes. Est-ce que, quand toi, tu as ton projet de mariage et que tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce mariage, vas-tu lui tendre la main? Vas-tu l'inviter à ton mariage? Non. Tu vas t'en éloigner, tu vas t'en séparer. Celui qui s'oppose à ton mariage, c'est ton ennemi. Si tu attends quelqu'un te dire, oh non, ton mariage là, moi je ne suis pas d'accord, non. Il ne peut pas être ton ami. Sauf si celui avec qui tu vas te marier n'est pas la bonne personne. Nous savons que Jésus est la bonne personne pour nous. Donc celui qui s'oppose à ton mariage avec le Christ est ton ennemi. La Bible l'appelle l'adversaire. Et il rôde pour t'éloigner de l'objectif. Et la Bible déclare que nous connaissons ses desseins, nous connaissons ses plans, nous connaissons ses projets, nous ne sommes pas ignorants, nous savons. Nous avons du discernement. Alors, nous ne nous laissons pas emporter par les convoitises du diable. Comme il séduisit Ève, il voulut séduire Jésus pour que Jésus aussi s'éloigne de l'objectif. Mais Jésus savait quel était son objectif. Et Jésus ne fut pas séduit. Il refusa les propositions. Il refusa la tentation. Mais quand on parle de tentation de Jésus, on parle de quoi? On parle du manger. Hein? Jésus eut faim et le diable se présenta à lui, transforme cette pierre en pain. C'est des choses que nous vivons au quotidien. Tu as faim, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de sous. Ta relation avec Dieu commence à patiner parce que ça ne va pas. Parce que tu te dis que Dieu n'a pas répondu à mes prières. Tu dis que ce fiancé-là m'a oublié. Conclusion, j'accepte d'autres propositions. Jésus eut faim. On lui dit, transforme, parce qu'il avait le pouvoir de le faire. Transforme cette pierre en pain. Il dit non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il avait son objectif. Même si j'ai faim, je ne m'éloignerai pas de mon objectif. En le posant à quoi? En posant à la recherche de ce monde. Si tu m'adores, te prosternes, je te donnerai tout ce qui est là. C'est quoi cette richesse? C'est le travail. Nous travaillons, prenons du temps. Et ce temps-là, parfois, s'apathie notre relation avec Dieu. Le temps de prière diminue considérablement. Le temps de méditation de la parole diminue considérablement. Pourquoi? Parce qu'on a un projet, on doit acheter une maison, on doit acheter une voiture, les enfants doivent aller à l'école, il faut investir à l'université, il faut faire ceci. Ah, je n'ai plus du temps pour l'église, je n'ai plus du temps pour prier. Je dois bosser. Je dois me faire des sous. Et au final, la relation personnelle avec Dieu, l'intimité avec le fiancé, empathie. La tentation de Christ, c'est un reflet de ce que nous vivons au quotidien par rapport à ce que nous avons comme difficulté, comme défi au quotidien. Dans toutes ces choses, il faut qu'on garde en tête l'objectif. Et que même dans toutes ces difficultés, dans tous ces manques, je dois être capable de gérer ma relation avec Dieu. Vous voyez, moi, par exemple, je travaille maintenant à Gravelines. Donc, je suis à 1h30 de Lille. Chaque matin, je vais en voiture, je rentre le soir. Parfois, je fais 1h45, ça dépend de l'embouteillage. Je jamais travaillé aussi loin. Quand je travaillais loin comme ça, c'est quand j'étais à Lyon, mais je partais, je dormais sur place, donc ça allait. Je partais lundi matin, je dormais sur place, donc le matin, je pouvais aller au boulot tranquillement. Mais comme j'avais mes temps de prière, ah, on fait comment, Seigneur? J'ai dû me réorganiser. J'ai dû me réveiller plus tôt. Maintenant, je me réveille à 5h00 tous les jours. Parce que je ne peux pas sacrifier mon temps de prière personnelle. Je dois m'adapter. Avant, je me réveillais un peu plus tard, à 6h. 6h30. Je suis obligé de me réveiller à 5h tous les matins. Parce que je dois avoir mon temps de prière et de méditation. Le travail ne doit pas m'empêcher d'avoir mes temps d'intimité avec mon Dieu. Donc, je m'adapte. Je me réorganise. Pour que je garde en tête l'objectif. Je dois rencontrer mon époux. Je dois me marier. Le ministère, c'est pareil. Je suis pasteur ici, il faut préparer les prédications. Beaucoup d'entre vous que j'appelle, avec qui je prie au téléphone, parfois même c'est tard le soir, mais je dois m'organiser. Je suis obligé de trouver une organisation familiale pour atteindre les objectifs. Et donc chacun de vous aussi, dans votre vie personnelle, vous devez vous organiser pour atteindre vos objectifs avec Dieu. Sachant que c'est dans l'intimité avec ton fiancé que tu apprends encore à le connaître et que tu apprends à connaître sa volonté et que tu apprends encore à développer ce qu'il attend de toi et que tu apprends encore à être rempli de lui. On a un couple qu'on connaît, mon épouse et moi, qui étaient des serviteurs anciens dans une église. Depuis un moment, le couple a des problèmes. On était chez eux il y a quelques jours. Mais diagnostic, quand on regarde de plus près, leur vie de prière personnelle a diminué parce qu'ils ont un autre objectif, travail, travail, travail. Ils n'ont plus le temps dans la prière. Les prières qu'ils faisaient, monsieur et madame, ils n'en font plus. Chacun parfois prend 5 minutes pour prier à gauche, à droite. Ils n'ont plus de prières de famille avec les enfants. Aujourd'hui, ils ont un problème de couple. Mais quand on regarde, quand on analyse, on voit que la vie spirituelle depuis un certain temps a pris un coup. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans les brèches. Le diable, il rentre dans les brèches. Tu l'ouvres une porte, il ne veut pas se faire prier. Il va rentrer. C'est pourquoi on dit qu'il rôde. Ça veut dire qu'il cherche une porte d'ouverture dans ta vie. Il va la saisir et rentrer par là. Aujourd'hui, ça nous fait travailler en plus avec mon épouse pour les accompagner. Et c'est par la grâce de Dieu de les réconcilier. Pour nous aussi, ça nous fait encore un travail spirituel en plus. Ouais. Je lui ai réorganisé parce que je devais prêcher cette semaine, et que on a dû aller le voir. Il fallait que je me réorganise pour ma prédication. Ce matin, je me réveillais très, très, très tôt, qui n'était pas prévu au départ, pour finaliser ce que le Seigneur m'avait dit pour ce dimanche matin. Pourquoi? Parce que je suis allé les soutenir. Et c'est l'appel que Dieu m'a donné, dont je remplis ma part. Amen. Allez, on va terminer avec quelques versets. Philippiens 3, 17 à 21. C'était ça? 3, 17. OK. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent sur le modèle que vous avez en nous. Car il est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. L'apôtre Paul qui parle. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Alléluia. On va reprendre ce passage à partir du verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, le modèle qui est dans la parole. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore comment ? En pleurant. Leur fin sera la perdition. Mais que reproche-t-on à ces personnes ? On dit quoi ? C'est pas qu'ils ont fait des péchés dramatiques. Non, qu'est-ce qu'on leur reproche ? On dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Ils oublient qu'ils ont un objectif. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je dois manger, je dois boire, je dois travailler, je dois avoir enfants, je dois me marier. Pense qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous, qui sommes l'épouse, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité à nous est dans les cieux. Elle n'est pas ici. Amen. Apocalypse 21, 9. J'aurai un dernier passage et on va terminer. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies de sept derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia. La femme de l'agneau. On va lire Apocalypse 19, 7, dernier passage. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Réjouissons-nous. Le ciel se réjouit du mariage de l'agneau. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Il y a un temps où les noces vont arriver. Il y a un temps. Et son épouse s'est préparée. Préparons-nous à la rencontre de Préparons-nous à la rencontre de notre époux. Les choses de la terre, on en a besoin. La Bible dit que Dieu sait que vous en avez besoin. Mais ce n'est pas l'objectif. Préparons-nous pour la rencontre de l'agneau. Amen.